Silcast présente la lecture commentée, thème du jour Histoire, récente géopolitique, avec Victor et Sacha. Bonne écoute.
D'accord pour Moda, parce que sur les faits, il n'y a pas de débat sérieux à avoir. 17 bombes, dont 4 aériennes à Reagan et 13 souterraines à Inecker, avec des incidents documentés comme Beryl en 1962, où le tunnel n'a pas tenu et où le nuage radioactif s'est échappé. Ce qui m'intéresse dans l'angle de Eni, et c'est pour ça que ça mérite plus qu'une note de bas de page, c'est qu'elle ne traite pas ça comme un dossier d'histoire militaire. Elle le traite comme une question d'espace, d'aménagement, de territoire. C'est une historienne de l'architecture qui regarde un paysage. L'encore du jour, c'est un texte paru sur Terrestre signé d'une recension du livre de Samia Eni, Toxicité coloniale. Documenter le paysage radioactif dans le Sahara, sorti en 2026 aux éditions B42. Eni est architecte et historienne, elle enseigne à McGill. Sa thèse en deux phrases, entre 1960 et 1966, l'État français a fait exploser 17 bombes atomiques dans le Sahara dit algérien. Et ce passé a été enseveli sous des euphémismes, essais, radioactivité, qui sont des mots cosmétiques pour ce qui est en réalité une toxicité coloniale durable. Son geste, c'est de documenter, archiver, cartographier ce qui a été invisibilisé. Victor, je te propose qu'on lise ce texte ensemble en mode A. Lecture en duo. La thèse est solide, elle s'appuie sur Gabriel Hecht, sur Granvaux, et là on a une nouvelle pierre qui s'ajoute à un édifice qui commence enfin à exister en français. Là j'ai envie qu'on s'arrête, parce que c'est conceptuellement le moment le plus dense. El Gwabli dans Desert Imagination propose ce terme par analogie avec l'orientalisme de Saïd. L'idée est telle que la rend la recension. Dans les productions culturelles majoritaires, le désert apparaît comme terra nullius, inhabitée, improductive, inutile et menaçante. Et cette fiction d'un désert vide légitime des projets d'exploitation brutaux. C'est un outil analytique qui fonctionne au-delà du cas algérien. Il vaut pour Mururoa, pour le Nevada, pour le Maralinga australien. Et c'est là que le texte est fort. La recension cite Eni sur les narrations cosmétiques qui masquent les réalités de la domination coloniale. Le mot est juste. Quand on dit « essai », on suggère quelque chose de provisoire, d'expérimental, presque scientifique au sens neutre. Or, il s'agit de bombes atomiques, point. Et le territoire choisi n'est pas neutre non plus. C'est le Sahara, parce que considéré comme vide. C'est exactement le second concept que mobilise Ler, celui de Brahim El Gwabli, le saharanisme. Le passage de la recension qui marque le plus, c'est l'évocation de la chape de silence. Je cite « Ce sujet a longtemps été tabou en France ». Dans la presse, dans les discours politiques, aussi bien que dans le cadre académique, où enquêtes, témoignages, littérature et recherches sur ce thème ont été invisibilisées. Et la recension ajoute que seul le réseau associatif et militant a tenu le sujet en vie, avec par exemple Granvaux sur Areva. Et le détail qui pique, il a fallu attendre que ça vienne du monde anglo-saxon. Hecht d'abord, Eni qui publie d'abord en anglais pour que ça revienne en français, traduit. C'est exactement le pont que fait le poème de Hawad cité en exergue. Tu te souviens du passage « Alors les Jemanis atomiques du COA partirent à Mururoa chez nos frères polynésiens. Et nous les Touaregs, nous phéromones de Satan. » Hawad relie d'emblée le Sahara et la Polynésie. Le COA bouge d'un désert colonial à un atoll colonial. Même logique, même corps considéré comme sacrifiable. Et c'est pour ça que je trouve juste l'invocation du saharanisme, comme idéologie inhérente aux intérêts coloniaux. Le désert vide est une idéologique, pas une donnée géographique. Et c'est pour ça que les deux articles compléments qu'on a aujourd'hui résonnent. Parce qu'on n'est pas dans un dossier purement passé, on est dans une bataille mémorielle vivante. Le reportage de Street Press au Touvet, en Isère, daté du 7 juin, montre une trentaine de personnes en train de fleurir la tombe de Claude Piègue, terroriste de l'OAS condamné à mort en 1962. Et le président de la Fédération nationale des rapatriés, Jean-Claude Cagnier, déclare, je cite l'article, que la présence française en Algérie ne fut pas un crime contre l'humanité. On est en 2026. Ce n'est pas un détail, c'est politiquement central. La France a une difficulté structurelle à historiciser son passé colonial depuis l'intérieur de son champ académique et médiatique. Et ce n'est pas un hasard, c'est lié à la continuité institutionnelle du CEA, à la fierté nationale autour de la dissuasion, à toute une mythologie gaulliste de l'indépendance énergétique et militaire bâtie, littéralement, sur des corps sahariens. Reconnaître Reagan, c'est fissurer le récit fondateur de la République sur sa puissance. Sur le plan pragmatique, ce qui m'inquiète dans le tableau de Street Press, c'est moins la trentaine de nostalgiques en eux-mêmes que le fait que leur cadre idéologique irrigue maintenant un espace politique beaucoup plus large. Quand le RN et une partie de la droite parlementaire reprennent en sourdine le récit d'une Algérie française œuvre civilisatrice, ils ne le font pas ex nihilo, ils le font sur le travail de maintenance mémorielle de ces associations. Et donc le travail d'historien comme Eni n'est pas un confort académique, c'est un contrepoids très concret. Et l'autre intervenant, Albert Roland, qui requalifie les hommes de l'OAS en résistants. C'est exactement l'inverse du travail que fait Eni. Eni documente, nomme, cartographie la toxicité. Eux, ils maquillent, ils euphémisent, ils inversent les rôles bourreaux-victimes. Les narrations cosmétiques dont parle Eni ne sont pas que des reliquats des années 60. Elles sont rejouées chaque année devant un cimetière en Isère par des gens qui posent une plaque dont les initiales forment OAS. C'est la même bataille de mots. Le parallèle a ses limites, parce que la Corse n'est pas une colonie au même sens, et je ne voudrais pas qu'on les écrase l'un sur l'autre. Mais ce qui est commun, et c'est ce que le documentaire semble travailler, c'est l'incapacité de l'État français à produire un récit partagé de ses propres conflits internes. Pizzini dit, dans l'entretien à 20 minutes, qu'elle voulait donner les clés pour comprendre simplement cette histoire qu'on a rendue aussi très complexe. C'est exactement la même opération que Eni, prendre quelque chose qui a été délibérément embrouillé et le rendre lisible. Le troisième article, sur le documentaire Colonna sur France 2, ouvre un troisième front. Ariane Chemin et Agnès Pizzini font trois épisodes sur Ivan Colonna en disant explicitement qu'elles ne veulent pas trancher la culpabilité, mais raconter 50 ans de conflit entre Paris et la Corse. Et ça nous ramène à un point que Eni travaille en filigrane. La France a plusieurs territoires où sa souveraineté a été contestée par des mouvements de libération. Et chacun de ces dossiers est resté politiquement non clos. Ce que je retiens de Eni, en synthèse, c'est trois choses. D'abord, qu'on ne peut plus parler d'essais sans malhonnêteté. Ce sont des bombes et leur géographie est coloniale. Ensuite, que le concept de saharanisme apporté par El Gouabli en complément est un outil utile parce qu'il dépasse l'anecdote française et nomme une matrice idéologique transversale. Et enfin, que la France a un retard historiographique sur son propre passé nucléaire colonial. Retard qui n'est pas un hasard institutionnel, mais un choix politique. Et que ce retard, des historiennes comme Eni, depuis Montréal, sont en train de le combler à notre place. Et chez Eni, le geste est d'autant plus fort qu'il passe aussi par une exposition, Performing Colonial Toxicity. Le livre et l'exposition se répondent, parce que le paysage radioactif n'est pas qu'un objet de discours, c'est un objet matériel qu'il faut donner à voir. Les cartes, les photos, les documents déclassifiés, les témoignages des populations Touareg et des vétérans. C'est une stratégie de preuve à plusieurs registres. Et c'est ce qui rend l'ouvrage difficile à congédier. Et c'est peut-être ça la phrase à garder du texte sur Terrestre. Eni donne à penser la colonisation et ses effets dévastateurs sur le très long terme. Le très long terme. Parce que la demi-vie du plutonium, elle, ne négocie pas avec la chronologie politique française. Pour moi, ce que ce livre change, c'est qu'il referme une porte rhétorique. On ne pourra plus dire « on ne savait pas » ou « c'était une autre époque ». Les éléments de preuve sont là, archivés, cartographiés, publiés. Et ça met une pression politique sur deux choses très concrètes. La reconnaissance officielle des victimes, vétérans français comme population saharienne, et l'indemnisation qui reste à ce jour ridiculement faible au regard du nombre de personnes exposées. Le travail d'Eni, lu à côté du reportage de Street Press et du documentaire sur Colonna, dessine une même exigence, que l'État français cesse de gérer sa mémoire coloniale par l'euphémisme et la prescription. On en reste là pour aujourd'hui, le livre est aux éditions B42 et la recension est lisible en intégralité sur Terrestre.